avec nous. Nous remercions ce soir, Père Céleste, de nous avoir réunis en ce temps. Nous sommes venus avec nos chants, avec la prière, nos requêtes, mais aussi tout notre cœur, pour écouter et recevoir ta parole. Impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci pour cette réunion ce soir. Te prions de nous honorer ta présence selon ta promesse. Que nous puissions apprendre encore de toi. Tout ce qui est de l'homme, que cela soit mis de côté. Est à toi, pénètre nos cœurs et y soit ancré. Demandons pardon pour nos péchés. Implorons ta grâce, ainsi que ta miséricorde. Nous te demandons ton assistance pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, Axel, je te bénis. Vous allez bien. Pas trop agité. Les téléphones ont chauffé hier. Le Abimous Papam. On s'est rappelé les prophéties. Ça m'a rappelé l'année passée, en novembre, n'est-ce pas, où tout le monde attendait que Kamala Harris soit élue. Elle n'a pas été élue, bon. Ce n'est que partie remise, tout s'accomplira en son temps. Le pape américain annoncé, est-ce celui-ci, est-ce un autre? L'interprétation, c'est l'accomplissement. Mais il faut dire que cela a été annoncé depuis 1954. Ça fait 71 ans. À l'époque, quand cela a été annoncé, c'était... Ça pouvait paraître tout à fait loufoque. Mais c'est en train de prendre corps. Dieu nous montre que c'est réellement possible. N'oubliez pas, nous avons passé... 2-3 mois, si pas plus, à décortiquer les événements qui doivent se passer avant la venue du Seigneur. Et nous ne devons pas les rater. Lors de sa première venue, il s'est écrit à la croix, tout est accompli. Tout ce qui était annoncé avant sa première venue, avant sa crucifixion, s'est accompli. Là, c'est accompli sous les yeux des religieux qui savaient toutes choses. Nous sommes des religieux qui savons beaucoup de choses. Que sa venue ne nous surprenne pas, que nous soyons prêts. Ça va? Comme je dis toujours, il ne s'agit pas de réciter tout ce que le prophète a dit pour être sauvé. Ou plutôt vivre la parole de Dieu. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, il y a des discussions tout à fait inutiles. On vous taxe de pas mal de qualificatifs. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir si votre vie, si notre vie est digne de l'Évangile. C'est ce qui nous a été demandé. Bien. Nous allons lire dans le livre des Proverbes ce soir. Proverbe, c'est après les psaumes et les cantiques des cantiques. Avant les cantiques des cantiques. Hein. Avant l'Ecclésiaste. Proverbe 16. Verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Paul, tu as des projets? Tu as des projets? Fiston, tu as des projets? Oui. Très bien. Axel, tu as des projets? Marie-Élise, surtout pas faire l'examen, non. Surtout pas. Ok. Eh bien, le cœur de l'homme, moi j'en avais aussi plein. J'avais ma feuille de route. Je n'ai jamais pensé être un jour prédicateur. Je pensais aller vivre là où il y a des troubles au Congo. Je pensais y passer ma vie là-bas. Mais en toute chose, c'est l'Éternel qui dirige nos pas. On a beau avoir des projets, c'est l'Éternel qui dirige nos pas. Et lors de l'appel, jamais pensé que je travaillerais ici. Je me suis dit, ma prière était, si je dois le faire, je ne veux pas ouvrir d'assemblée, là où il y en a déjà. Je ne veux pas non plus causer une division. Je veux, si cela doit se faire, que j'aille le faire là où il n'y en a pas. Ça, c'était dans ma tête. Mais Dieu a fait les choses autrement. Tout ça pour vous dire que nos vies lui appartiennent. Et le titre, fiston, tu peux mettre, qu'on vient de lire, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui change ses pas. Paul, l'apôtre Paul, cette fois-ci, pas toi, Apollo. Apôtre Paul, il voulait devenir un grand pharisien. Il était pharisien, vous savez. Vous savez qu'il était pharisien? Il avait des ambitions, il a suivi les meilleurs cours qu'il fallait. Il était très appliqué. Il était plus avancé que beaucoup, plus âgé que lui. Mais Dieu a décidé autrement en ce qui concerne l'apôtre Paul. Galates, chapitre 1er. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais Dieu en a décidé autrement. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Pour en arriver là, Dieu l'a conduit. Dieu a dirigé les pas de Paul, parfois de manière douloureuse, parce qu'il lui dit ceci dans Actes 9, lorsque Jésus-Christ le rencontre sur le chemin de Damas. Jésus va lui dire ceci. Verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, message de l'heure, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et comme il a promis, ça c'était ses projets, qui les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Ça, il n'avait pas prévu. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Les aiguillons sont des bâtons pointus, des bâtons, bien sûr, en bois, et la pointe est en métal, ça sert à diriger les bœufs. Quand vous voulez que le bœuf aille à gauche, vous le piquez à gauche, et pas juste le caresser avec, il faut le piquer. Quand si vous voulez qu'il aille à droite, vous le piquez à droite. Oui. Et Dieu a des aiguillons pour nous diriger. Et ces aiguillons peuvent faire mal. Mais nous avons besoin pour cela, que cela nous fasse mal. Car là où Dieu nous conduit, on ne sait pas. On ne sait pas. Quand il a appelé Abraham, il a dit, va-t'en de ton pays, va, Genèse 12, n'est-ce pas? Oui, vous allez me dire, nous chantons, je vais à Jérusalem, c'est vrai, mais c'est où? De quel chemin? Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, va-t'en dans le pays que je te montrerai. C'est où? Dieu ne le lui dit pas. Dieu veut que nous lui fassions confiance. Et Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Là où tu vas, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Thomas dit à Jésus-Christ, dans Jean 14, connaît beaucoup Thomas, Saint Thomas, pour avoir dit qu'il voulait voir les blessures, pourquoi? Mais c'est aussi lui qui dit, lorsque Jésus dit dans Jean 14, verset 2. D'abord, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas dit, Seigneur, une minute. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et nous savons que ce chemin, Jésus-Christ, n'est connu que par révélation. Il faut une révélation divine pour connaître le chemin. Il faut que Dieu vous montre le chemin. Sans révélation, vous ne savez pas où vous allez. Et c'est lui qui vous conduit. Et quand il vous conduit, vous ne connaissez pas le chemin. Paul donne ce témoignage. Il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Jésus nous prévient, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Les aiguillons du Seigneur, ils sont efficaces. Mais ils sont parfois douloureux pour nous apprendre à prendre la bonne direction. Dieu ne parle pas beaucoup. Il est étonnant parfois d'entendre souvent des gens dire à répétition que Dieu leur parle. Dieu ne parle pas beaucoup. Il vous dit une chose une fois, et puis il vous regarde. Maintenant, si dans ces projets, vous devriez être pharaon, eh bien, Dieu va faire de sorte, il va vous mettre à la place où vous devez être, parce que dans ces projets, il fallait que quelqu'un ait le cœur endurci pour laisser Israël partir de l'Égypte. Et Dieu a mis Pharaon à cet endroit-là. Vous n'êtes pas né dans votre famille par hasard. Les bonnes choses et les mauvaises choses qui arrivent dans votre famille, tout cela est sous contrôle divin. Rien ne lui échappe. Mais pour ceux qui l'aiment, si vous l'aimez, il va faire tout concourir pour votre bien. C'est Romains 8 qui nous dit. Jérémie dit ceci. Avant d'aller dans Jérémie, on peut aussi encore prendre l'exemple de Jacob. Jacob connaissait le vœu qu'il fait dans Genèse 31. D'abord, le vœu, il le fait dans Genèse 28. « D'abord, dans Genèse 28, Dieu lui promet ceci. Au verset 13, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » C'est une promesse et Dieu veille toujours à accomplir ses promesses. Alors, Jacob va faire un vœu. S'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, c'est le verset 20. Si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Oui, Dieu lui dit, cette terre où tu es couché, je te la donnerai. Et il fait un vœu, si Dieu me garde, okay, Dieu va le garder. Il va arriver chez Laban, mon oncle. Il y sera bien. Il y sera tellement bien qu'il va se sentir à l'aise. Il va se sentir à l'aise. Jacob va oublier qu'il avait fait un vœu. Ouais. Il va oublier qu'il avait fait un vœu. Et il sera installé, il va s'enrichir, il va travailler pour le beau-père, il a trouvé du travail, il ne songe pas à rentrer. Vous savez, dans ce pays, il y en a beaucoup qui sont venus, quand ils sont venus d'ailleurs, quand le séjour n'a pas été réglé, il y en a beaucoup qu'on a renvoyés, d'autres pas. Dieu sait pourquoi. Ça va? Parce que si j'étais renvoyable, j'aurais été renvoyé. Cinq ordres de quitter. Oui. Si Dieu veut, si Dieu voulait que je rentre, j'allais rentrer. Pour m'empêcher toute volonté de voyager, je n'avais plus aucun papier. Oui. Et vous êtes là, bloqué, tout est bloqué, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Mais les aiguillons de Dieu vous conduisent là où vous devez aller. Et Jacob, il est arrivé là, pour le sortir de chez Laban, il fallait que Dieu active les aiguillons. Sinon, Jacob ne partait pas. Alors que, en partant, en fouillant son frère, il avait la pensée de revenir. Mais il était tellement bien chez son beau-père qu'il n'avait plus pensé à rentrer. Alors, ça, c'est comme les Juifs. Ils doivent rentrer. Dieu dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Ils doivent rentrer. Mais les Juifs sont venus en Occident, un peu partout dans le monde. Ils se sont très bien sentis. Tellement bien sentis, ils y sont restés, ils se sont établis. Alors, pour les faire partir, il a fallu activer un Hitler. C'était au prix fort. Ils ont fini par songer à rentrer et à fonder une patrie. Si les atrocités de Hitler n'étaient pas à ce niveau-là, je crois qu'il n'aurait jamais songé à fonder une patrie. Il fallait qu'il y ait vraiment un holocauste. Il fallait que ça soit à ce prix-là, à ce tarif-là, pour que les Juifs pensent au pays que Dieu a promis à Abraham. Et c'est valable aussi dans la vie chrétienne. Jacob, au chapitre 31, de la Genèse, pardon, verset 1er, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Ah, il entend ça. Ça, c'est un peu ce que vous entendez parfois. Ouais. Ils ont quitté l'Afrique, ils sont ici, ce sont eux qui reçoivent toutes les allocations familiales. Ils nous ont pris notre travail. Nous, nous sommes, n'est-ce pas? Nous sommes... Nous sommes des chômeurs, nous sommes sans emploi. Ils n'ont rien. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors, l'Éternel lui parle. L'Éternel va lui rappeler ce qu'il a dit. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Dieu lui parle une fois. Jacob a compris. Il fait appeler Rachel et Léa, les femmes, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient de petits tachetés. Et quand il disait « les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient de petits rayés. Oh, Dieu est grand. Amen. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Amen. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levais les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tacheté et marqueté. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux, regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Tout est sous contrôle. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as érigé un monument, où tu as oué un monument, où tu m'as fait un vœu. Souviens-toi. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Ça, c'est l'ordre divin. Retourne au pays de ta naissance. Je ne sais pas si c'est la peur d'Ésaü, mais il va rentrer. Il va même rencontrer l'ange, il va se battre avec l'ange en chemin. Il va rentrer, mais au lieu de rentrer au pays de sa naissance, il va arriver à Sichem, qui n'était peut-être pas très éloigné du pays de sa naissance. Il va s'y installer. Non, Dieu a dit au pays de ta naissance. Et pour que il quitte le pays de Sichem, il fallait que quelque chose arrive. Et ça l'a fait fuir. Il a fui, il est parti. Dieu est ainsi. C'est lui qui dirige vos pas. C'est lui qui donne le go et la cadence. Dans Jérémie 10, Jérémie chapitre 10. Jérémie dit ceci, verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas en votre pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Il n'appartient pas à l'homme à diriger ses pas. Vous devez remettre cela à Dieu lui-même. Et quand Dieu dirige, c'est toujours dans la bonne voie. Qu'importe ce qui arrive, vous êtes dans la bonne voie. Les malheurs peuvent tomber, les difficultés peuvent arriver, mais si c'est Dieu qui vous dirige, vous êtes dans la bonne voie. Le fait que tout soit facile ne veut pas dire que c'est Dieu. Dieu a sa façon de former les siens. Il dit à Israël, je t'ai conduit à la manière d'un aigle qui élève sa couvée. Regardez comment l'aigle élève sa couvée, si vous en avez l'occasion. Il les met à l'épreuve, les aiglons. Au début, il leur donne à manger. L'aigle va chasser, vient avec à manger. Il tire une bouchée, il met dans le bec de l'un, dans le bec de l'autre, dans le bec de l'autre. Après un certain temps, d'abord ils sont dans un nid douillet, n'est-ce pas? Il leur a mis des plumes bien douces. Finalement, après un certain temps, une fois que les aiglons sont bien à l'aise, l'aigle vient avec des branches piquantes qu'il va mettre dans le nid. Les aiglons ne sont plus à l'aise. Et puis, ils vont avoir faim. C'est fini ça. La maman aigle allait chasser et venir leur mettre la nourriture dans le bec. Il leur apprend à chasser. D'abord, il leur apprend à voler. Comme ils sont souvent haut perchés, très haut, peut-être que les aiglons, ils ont peur. Il les prend, il les lâche. Il les lâche. Il le rattrape et le ramène. Une fois, deux fois, la troisième fois, ou un certain nombre de fois après, il ne le rattrape plus. Maintenant, à toi d'ouvrir les ailes. Sinon, tu vas te fracasser en bas. Et c'est comme ça que Dieu a conduit Israël. Au milieu de la soif, de la faim. Dans cet affreux désert, il y a des serpents et des scorpions. Dans Jérémie 2, il le dit, verset 17, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, sans laisse, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. C'est ce que je voulais juste montrer. Dieu dirige toujours dans la bonne voie. Une manière aussi de savoir si c'est Dieu qui vous conduit. David dit ceci dans le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui le conduit. En tant que berger, il a une houlette, n'est-ce pas, et un bâton. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça, c'est pour le repos. Pendant la marche, il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux sont des foules. Loin des vaines discussions. Il t'amène à ça. Dieu veut que nous marchions tous en paix. Quand il y a beaucoup trop d'histoires sur le chemin, c'est le moment de séparer. Je reviens encore, comme mercredi, à ce que disait le frère dimanche, n'est-ce pas? Tant que Lot était avec Abraham, ça ne pouvait pas marcher. Les bergers d'Abraham et les bergers de Lot n'arrêtaient pas de discuter. Paul dit aux Corinthiens, vous êtes là à discuter, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Il dit, Paul n'est pas mort pour vous, Apollos non plus. Jésus-Christ est mort pour vous. Pourquoi les discussions, genre, c'est révélé, c'est pas révélé? Vous n'avez plus le temps est proche. Si c'est vraiment important, si vous êtes un fils de Dieu, Dieu vous fera connaître la vérité. Et la vérité, c'est que c'est pas pour que vous alliez la répéter partout où vous allez, c'est elle va vous affranchir. Elle va vous libérer. Ah, j'ai jamais été esclave. Celui qui commet le péché, qui pratique le péché, est esclave du péché. Donc, il dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est pourquoi, lorsque nous passons notre temps à discutailler bêtement, c'est un mauvais témoignage du nom de Dieu. Et un mauvais témoignage sur le message. Un jour, il y a longtemps de ça, un ami, il est malheureusement, qui est déjà décédé, sa femme avait reçu le courrier d'un frère qui venait au départ à l'assemblée chez nous. Et elle m'a dit, écoute, j'ai du courrier pour tel frère. Est-ce que tu veux bien lui donner? Moi, je dis oui. De quel frère il s'agit? Alors, elle me dit qui? Moi, je dis, ah non, lui, il ne vient plus chez nous. Mais bon, je connais des frères qui peuvent le voir. Tu peux toujours me donner, puisqu'ils étudient ensemble à l'École royale militaire. Elle a dit, ah bon, vous n'êtes plus ensemble, non? Elle s'est étonnée, elle a dit, tiens, vous aussi, vous vous disputez. Vous voyez? On ne sait pas ce que les gens pensent de nous. Mais ils guettent toujours le petit détail. C'est Fred Chiombo qui racontait ça, père son âme. Eux aussi, quand ils se disputaient la parcelle, à Rini, là-bas à Kinshasa, l'affaire a été au tribunal. Et les juges étaient étonnés. Ils disent, tiens, ça vous arrive aussi? Alors qu'ils manifestaient cette fraternité. Ils manifestaient ce christianisme, ce vrai christianisme à l'ancienne mode. Que Dieu venait de restaurer. Quand on est en face de vous, vous serez critiqué. Mais n'oubliez pas, il vous regarde derrière. Et tant qu'il ne trouve rien à dire qui soit répréhensible sur vous, allez de l'avant. Donc, Dieu vous dirige près des eaux paisibles. S'il y a trop de disputes, comme avec Lot, Dieu va intervenir. Désormais, Lot ira à gauche, toi tu iras à droite, ou Lot ira à droite, toi tu iras à gauche, qu'importe le côté où Lot choisira. C'est pour que vous puissiez bien avancer. Lot, étant fils d'Abraham, enfin, le fils de frère d'Abraham, mais fils d'Abraham, disons ça comme ça, Dieu ne l'a pas abandonné. Quand les rois qui étaient assujettis au roi de Sodome avant, mais qui se sont rebellés, lorsqu'ils se sont attaqués à Sodome, ben, Lot a été pris. Mais si Lot a été pris, comme disait le frère dimanche, ça, c'est la bêtise que les rois ont commise, d'avoir pris Lot. S'ils n'avaient pas pris Lot, eh ben, ils auraient pris Sodome sans problème. Mais ils ont pris Lot avec eux. Et c'est un enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas parce que Dieu vous a séparé que l'un est enfant de Dieu, l'autre ne l'est pas. Non. Mais, pour que vous avanciez bien, il faut que vous soyez séparés. Pourquoi ne pleurez pas sur les séparations? Tant que quelqu'un ne va pas dans le monde, ce n'est pas un problème. Mais si il va là où on invoque Dieu, le même Dieu que vous, ben, il n'y a pas de souci. Allez de l'avant, priez pour le frère, priez pour la sœur. C'est arrivé avec Paul, l'apôtre Paul, et l'autre c'était Barnabas, je crois, je ne sais plus. Son pote. Ils se sont chamaillés, ils n'étaient pas d'accord sur un point. L'un est parti à droite, l'autre est parti à gauche, mais c'était pour que la parole de Dieu soit répandue. Et c'était la même doctrine. Ils n'étaient juste pas d'accord sur un bête point. S'il fallait amener Marc ou pas. Oh, Marc était le cousin de l'autre. Ouais. Ils n'avaient pas de doctrine différente. Donc, loin des discussions. Et Dieu vous conduit de manière sûre. Vous êtes en sûreté. Spirituellement en sûreté. Psaume 78. Ce qui veut dire que vous arriverez à Canaan certainement. Psaume 78. Verset 52. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement, de manière sûre, pour qu'ils soient sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Dieu, de vos ennemis, Dieu s'en charge. Il sait qui est votre ennemi. Votre ennemi, c'est celui qui veut vous empêcher d'aller en terre promise. Et parfois, votre pire ennemi, c'est vous-même. Alors, ce pire ennemi-là, vous-même, Dieu va faire de sorte que vous en soyez séparés. Vous devenez une nouvelle créature. C'est ça qui est important. Être circoncis ou incirconcis, c'est rien. Mais ce qui compte, c'est être une nouvelle créature. Et certainement, vous arriverez à Canaan. C'est aussi pour cela que Christ est venu. Pour nous conduire de manière paisible. Que nous ne perdions pas beaucoup de temps dans les discussions. Tant que les bergers de Lot et d'Abraham se disputaient, Dieu ne parlait à personne. Ni à Abraham, encore moins à Lot. Mais quand la séparation a eu lieu, c'est là que Dieu a parlé à Abraham. Et quand les choses sont devenues difficiles, compliquées pour Lot, d'abord, avant, quand le péché a abondé, Dieu est parti à Abraham, parti à Sodome. Abraham lui dit, mais si tu trouves des justes, tu vas quand même pas détruire Sodome. Il dit, si je trouve des justes, non. Ben, Abraham a commencé avec une centaine, et puis il a diminué 50, et puis il a marchandé encore. Il est arrivé à 10. Dieu a dit, s'il y en a 10, je ne frapperai pas. Mais il a trouvé moins que 10. Mais Lot est sorti. Il est même un peu sorti de force. Il tergiversait pour partir. Les anges l'ont pris et ils l'ont fait sortir. Si vous tergiversez, si vous êtes un enfant de Dieu, vous en faites pas. Si Dieu a sorti Lot, il vous sortira aussi. Gloire à Dieu. Donc, Christ est aussi venu pour ça. Dieu veut que nous soyons toujours en paix les uns avec les autres. Cette parole ne doit pas nous diviser. Tant qu'on vient chacun avec son argument, ça ne passera pas. Mais si on vient chacun avec la parole de Dieu, comme nous sommes croyants en cette parole, eh bien, on sera d'accord. Paul et les autres apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et consorts, quand ils ont vu que c'était la même parole, ils se sont donné la main d'association. Il n'y a pas eu de discussion entre eux. Au contraire, ils ont marché quasiment ensemble, chacun de son côté. Siméon, il prophétise, il dit ceci dans Luc chapitre 1er. Verset 76. Et toi, petit enfant, c'est Zacharie qui prophétise, pardon, c'est pas Simon. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Que vous sachiez que Jésus-Christ vous sauve. Vos péchés sont pardonnés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ça va? C'est là où nous rejoignons l'apôtre quand il nous dit « Autant que cela dépend de vous. » C'est une règle d'or. Pas seulement dans l'assemblée. Partout où nous sommes. Parce qu'il ne parle pas seulement des croyants. Romains 12, 17, il dit « Ne rendez à personne, que ce soit un croyant ou un incroyant, si un incroyant vous fait du mal, c'est rare qu'un croyant vous fasse du mal. Qu'un incroyant vous fasse du mal, ne rendez pas le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais il est difficile pour nous de toujours continuer de manière paisible. Nous avons ce petit lot-là de caractère qui nous tient, qui nous tenaille. Celui dont on parle souvent, ah, moi depuis que je suis né, je suis toujours comme ça, je n'aime pas qu'on me fasse. Donc, celui qui n'aime pas certaines choses, Dieu veut que vous vous sépariez de lui. Celui qui dit toujours, moi ces histoires-là, je n'aime pas. Non, non, non. Laissez ça de côté. C'est pourquoi il prend ça en main, le fait de nous conduire vers Canaan. Parce que de nous-mêmes, nous n'y arriverons jamais. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Et quand nous arriverons là-bas, nous pourrons dire, si nous sommes ici, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Oh, est-ce que vous croyez que Dieu a votre vie en main? Si vous le croyez, soyez sûr d'une chose, vous arriverez à Canaan. Que Dieu vous bénisse. Parce que c'est lui qui dirige vos pas. C'est lui qui a fait que vous soyez là ce soir. C'est lui qui a fait que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui en tant que croyant. Et nous l'en remercions. Parce que croire en cette parole, ce n'est pas facile. En 1954, croire qu'il y aurait un pape américain, c'était pas facile. Les gens ont même pris ça pour une parole de folie. Mais finalement, c'est en 2025, ça s'accomplit. Ce n'est peut-être pas le dernier. Il y en aura peut-être encore un autre. Hein, on ne sait pas. N'oubliez pas, il faut que 2 Thessaloniciens 2 s'accomplissent aussi. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père Céleste, ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce dont pourquoi elle a été prononcée. Et nous croyons cela de tout notre cœur. Et tu dis à Jérémie de dire au peuple que tu as sur lui des projets de bonheur et non de malheur. C'est une réalité. Car pour tous ceux qui t'aiment, tu fais concourir toutes choses, les bonnes, les mauvaises, tu les fais concourir pour leur bien. Oh Dieu, et pour tous ceux qui aimeront ton avènement, il y a une couronne qui leur est réservée. Nous te sommes reconnaissants pour toutes ces bonnes choses que tu as mises en réserve pour nous. Te sommes reconnaissants pour ta parole que tu nous révèles, pour cette parole révélée de notre temps, où nous pouvons voir tes prophéties s'accomplir. Et lorsqu'elles s'accomplissent, cela nous remplit de joie. Cela nous remplit encore d'assurance. Donc c'est pourquoi nous pouvons proclamer que vraiment Dieu, c'est le Dieu véritable lui-même qui nous a conduits. Le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas un Dieu mort, ce n'est pas un Dieu inerte. C'est un Dieu qui prononce, qui annonce l'avenir. Il ne parle pas que du passé, il ne parle pas que du présent, mais il annonce des choses à venir et ces choses arriveront certainement. Et tu n'as pas du tout caché ces choses à tes enfants. Tu leur as dit toutes ces choses qui arriveront. Tu nous as donné l'occasion d'en voir quelques-unes. Disons pas que nous avons tout vu, mais ce qui est nécessaire pour nous de voir, tu as certainement pourvu. Si tu veux que nous en voyons encore davantage, tu pourvoiras. Aussi, nous nous attendons à toi, ô Dieu, et nous te faisons confiance. Nous voulons suivre tes pas pendant que tu nous conduis par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent savoir dans quel message le frère dit ça, c'est dans les actes du Saint-Esprit. Prêché en février 1954.